Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Florence Colombani et Antoine Guillot pour parler ensemble de Adults in the Room de Costa Gavras, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, un coup de cœur d'Antoine Guillot pour Quand passent les cigognes qui ressort en salle et puis bien sûr, ce soir, le journal de la dispute. Et ce journal, s'il est souvent placé en fin d'émission, c'est avec lui que nous ouvrons ce journal de la dispute tenu par Lucille Como. Et ce soir, cher Lucille, retour sur les révélations d'Adèle Haenel qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'avoir abusé d'elle alors qu'elle était une toute jeune fille, sûre, et après le tournage du film Les Diables.
Oui, l'histoire fait grand bruit. L'enquête réalisée par Mediapart auprès d'une trentaine de personnes a été largement commentée comme un prolongement du vaste mouvement MeToo né aux États-Unis, comme le signe de la place que prennent désormais les médias dans la dénonciation des abus sexuels, comme un échec retentissant du système judiciaire français aussi. Tous ces sujets sont évidemment passionnants, mais s'ils regardent le cinéma comme un milieu fait de rapports de classe et de rapports de genre, ils regardent moins évidemment le cinéma comme art. Peu de commentateurs, par exemple, se posent la question de ce que c'est que ce film « Les Diables » de Christophe Ruggia, ce film sorti en 2002 et dont le tournage a été le premier lieu d'abus du réalisateur sur Adèle Haenel. Un film sur un couple, un frère et une sœur adolescents, elle est autiste et muette dans le film, ils sont fugueurs tous les deux. Un film qui décrit des rapports passionnels, dérangeants, une jeune fille fragile et dépendante et qui aurait nécessité, je cite, précisément pour ces raisons, un travail préparatoire de 6 mois. Il s'agissait, selon Christophe Ruggia, dans une interview donnée à l'Obs au moment de la sortie du film, de, je cite, « les mettre en confiance pour qu'ils puissent jouer des choses difficiles ». Et selon les proches de l'actrice, la relation nocive s'est fondée là, dans ce conditionnement et cet isolement. Alors dans la réponse qu'il a adressée à Mediapart, Ruggia nie tout abus physique mais ne nie pas l'emprise qu'il a pu avoir sur l'actrice, convoquant tout un inconscient propre au cinéma selon lequel l'actrice, d'autant plus quand elle est jeune, est la créature, voire la création du metteur en scène. À plusieurs reprises, il estime que c'est lui qui a découvert son talent, je cite, qui a décelé ses capacités d'actrice, l'a révélé au cinéma et à elle-même en somme. Ce travestissement nocif de l'oppression au romantisme est omniprésent, il existe sur les plateaux de cinéma, il existe dans la mythologie des grands films, il existe aussi dans une certaine mesure sous notre plume et dans notre bouche, chers critiques de cinéma. Le réalisateur est le maître, il est invité dans les émissions pour parler de cinéma quand les acteurs sont invités pour parler de leur carrière, il est valorisé dans les chroniques, on l'accuse de tous les biens ou tous les maux d'un film. La relation qui existe entre lui et ses acteurs est souvent érotisée, l'idée selon laquelle le réalisateur doit être amoureux de ses actrices revient sans cesse, sous une forme plus ou moins réactualisée et plus ou moins consciente. Coïncidence, ce même jour où Adèle Haenel dénonçait un système dans lequel, au nom du cinéma, un homme peut harceler une jeune fille et abuser d'elle, le prix Renaudot récompensait le livre du critique Éric Neuhoff, très cher cinéma français. Alors c'est un court pamphlet déploratif qui, entre autres arguments que son auteur croit sans doute anti-moderne dans le bon sens du terme, regrette le temps des garces, je cite, où les acteurs voulaient, je cite encore, sauter sur des starlettes pendant les festivals, ce temps où les cinéastes en somme avaient tellement envie de coucher avec les actrices que les spectateurs en avaient envie aussi. Éric Neuhoff peut en être remercié, il idéologise avec éclat le fonctionnement patriarcal du cinéma français et incarne à lui seul la bonne vieille critique à la papa, dessinant un schéma simple dont à mon avis personne n'est complètement dépourvu dans le métier, le réalisateur en prédateur, l'actrice en proie, le critique en pornographe, le spectateur en voyeur. Je le dessine à gros traits mais c'est à dessein, quelle responsabilité nous, critiques de cinéma, avons-nous dans ce système ?
Alors Antoine Guillot, dès le matin, a déjà débattu d'une certaine façon cette question dans les matins de France Culture animés par Guillaume Herner. On fait un petit récap de ce qui s'est passé ce matin aussi, Antoine.
Ce qui s'est passé ce matin, c'était surtout la question de ce qui se passe sur les plateaux. C'est-à-dire que ce que je disais moi ce matin, contrairement à Julie Gayet qui était invitée ici et qui en avait une connaissance plus précise que nous critiques, c'est que nous voyons des films. C'est-à-dire que nous ne savons pas, à moins de mener une enquête, et on voit que quand il s'agit de mener une enquête sur un film et sur une relation entre un cinéaste et une actrice, ça peut prendre 6 mois. Donc évidemment, le critique qui voit plusieurs films par semaine et qui en rend compte de manière régulière n'a pas accès à ces informations. Donc ce que peut déjà essayer de déceler le critique, c'est ce qu'il voit. Et ce qu'il peut ressentir de ça. Alors effectivement, après, la question de la mythologie dont vous parlez, du créateur, de la muse et de cette vieille ancienne qui est on ne filme bien que les personnes qu'on aime, etc., est une question effectivement qui est vieille comme le cinéma et qui peut nous poser des questions, nous, dans le rapport qu'on a d'abord comme spectateur, mais qui sont des rapports qui sont réfléchis et théorisés depuis que Laura Mulvey a théorisé le male gaze et tous les travaux qui ont eu lieu ensuite, et qui nous ont aussi donné des armes critiques pour analyser premièrement notre propre rapport à ce que nous voyons comme spectateurs et la manière dont un metteur en scène met ça en jeu. Et c'est évident que même que des films grands films de l'histoire du cinéma se feraient aujourd'hui, on les recevrait autrement. Et même des films de consommation courante, comme vous prenez n'importe quel James Bond des années 60, c'est difficile à regarder aujourd'hui sur ce plan-là. Sur le plan du regard qu'on va poser sur une femme objet à consommer, même si elles deviennent des figures mythiques de la James Bond girl.
Mais c'est pas forcément qu'un plan. Ça peut construire réellement tout un film. C'est-à-dire que les films dont vous parlez...
Je parle pas d'un plan, hein. je parle d'un regard tel qu'il se construit
même,
au fur et à mesure du film.
Je comprends bien ce que vous voulez dire. Ce n'est pas forcément qu'un niveau d'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'à partir du moment où les relations hommes-femmes sont problématiques dans un film, le film en entier est problématique. Vous citez des James Bond, on pourrait considérer que ce n'est plus possible de regarder ça ou de le commenter, par exemple. C'est une hypothèse.
En tout cas, on le regarde à la fois comme le symptôme d'une société telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire qu'elle retranscrit de manière très fidèle la manière dont les relations hommes-femmes pouvaient être envisagées à l'époque de manière majoritaire et sans que ça choque personne à ce moment-là, ou alors vraiment des personnes très minoritaires. Mais tous les films sont à regarder en les historicisant. Un film qui et pas seulement sur le point de vue de la relation avec les femmes, sur la relation avec toutes les minorités possibles, sur la manière dont est représenté un noir dans les années 30, c'est pas une manière qu'on peut tolérer aujourd'hui. Mais quand on voit un film de cette époque, il faut aussi le contextualiser et le mettre dans ce regard. Parce que sinon, on s'interdit complètement de voir des œuvres du passé, de lire des œuvres du passé, de voir des représentations picturales de toutes sortes, si elles ne sont pas exactement en raccord avec l'état d'évolution de la pensée politique du moment.
Voilà, on a ce débat-là aussi, on reviendra d'autres fois, mais sur le théâtre qui nous fait entendre des textes anciens, mais dès aujourd'hui, quand chez Ibsen on parle sans cesse des juifs avec un antisémitisme absolument assumé, c'est évidemment ça, on l'entend aujourd'hui très curieusement, d'autant que là ce sont des gens vivants qui adressent cette parole. Mais bon, je fais cette petite parenthèse. Florence Colombani.
Je pense que justement ça souligne l'intérêt du rôle de la critique que de poser un regard sur le film comme objet historique, comme symptôme de son époque, et aussi comme symptôme du regard de la des artistes qui l'ont fait. Et je pense que ce qui est intéressant pour la critique française aujourd'hui, c'est aussi de voir le film hors du seul prisme du réalisateur, mais aussi comme un objet qui est constitué par ses acteurs ou par ses techniciens, un objet qui vient de plusieurs sources. Et le commentaire critique a d'autant plus de rôle à jouer qu'on est en train de remettre en question cette espèce de position de Pygmalion absolu du metteur en scène et de source originelle de tout sens et de toute création. Donc je pense que c'est un vrai défi stimulant pour le critique contemporain.
Lucille Comor.
Là, on parle beaucoup d'historiciser des films anciens et donc de la manière dont on peut les regarder aujourd'hui. Mais
un exemple
films...
présent, parce que, excusez-moi Lucille, mais on a parlé ici d'une fille facile, qui est vraiment un cas très récent, Rebecca Zlotowski, qui engage Zaya Dehar pour incarner un rôle qui peut s'apparenter à ce que l'on peut peut-être savoir ou croire savoir de cette personne-là. On a eu un débat sur cette question qui pose qu'est-ce que c'est que cette femme cinéaste qui filme cette femme qui a représenté ou qui représente pour beaucoup un corps du désir. On a pu entendre des commentaires divers et variés sur ce film. Il me semble que c'est un cas d'école pour la critique aujourd'hui.
Oui, c'est un bon cas dans la mesure où, par exemple, moi, j'ai pu reprocher en tant que critique à ce film de manquer de substance et de manquer de rapport de force là où, clairement, la réalisatrice, en l'occurrence, a choisi justement de se protéger en permanence des accusations qu'on pouvait porter contre elle et qui étaient des accusations de ce type-là. Et ma question, c'est... aujourd'hui au cinéma, si le rapport de force à l'écran, pas sur un plateau, pose problème parce que on le soupçonne immédiatement être un reflet des rapports de force qui ont eu lieu sur le plateau, donc qui peuvent être en effet des rapports de classe, des rapports de genre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que va être le cinéma du futur entre guillemets si tout rapport de force est suspect?
Antoine Guillaume.
Là encore, le critique juge une œuvre. On n'est pas là pour dire il s'est passé ça sur le plateau, je le sais, et regardez comment ça transparaît dessus. Je ne connais pas d'autres secteurs artistiques où le critique va enquêter sur la manière dont a été fabriqué quelque chose. Après, puisqu'on prend le cas de ce film de Zotowski, moi je le trouve passionnant, pas situé historiquement, mais à le situer socialement, actuellement, politiquement. Et le souci que j'avais moi sur ce film, c'est à quel point les archétypes dans la manière de représenter un corps comme celui de cette jeune femme et le personnage qu'elle incarne sont tellement imprégnés, même chez une réalisatrice militante, féministe, etc., qu'elle va les filmer exactement comme un homme prédateur par le regard, je dirais. Là encore, je ne parle pas du tout de ce qui se passerait sur un plateau, la filmerait. C'est-à-dire que pour moi, je parlais du male gaze tout à l'heure, le regard masculin, il est posé sur elle exactement comme ça. Et c'est alors que c'est pas ce qu'elle veut faire.
Mais je suis pas sûr, moi. Enfin, je suis pas dans le texte de Rebecca Zlotowski, mais je pense que justement, elle retourne la chose pour montrer que justement, Zaya, forte de cette connaissance du regard masculin depuis des siècles sur ce type de corps, elle joue de ça. Les hommes sont les perdants dans ce film pour moi. Ça le montre tout à fait.
La question du male gaze, il est triple.
C'est
le regard du réalisateur, le regard des personnages masculins dans le film et des spectateurs. Mais c'est pas la même chose de montrer le regard masculin qu'il pourrait avoir, et moi c'est le regard de la réalisatrice qui me gêne dans ce cas-là. C'est la manière de la filmer. Donc là, on est dans des catégories purement esthétiques qui renvoient à une réalité sociale et politique.
Florence Colombani.
Oui, et dans ce cas-là, ça excède totalement la question de ce qui a pu se placer sur un plateau, parce que dans un film médiocre, je dirais, ou dans un film qui n'est pas très intéressant, il peut s'être passé des choses épouvantables sur le plateau qui ne se voient pas du tout à l'écran. Ce sont quasiment deux questions séparées, et la question de quel est le rapport de force qu'on sent se tisser entre un réalisateur et ses interprètes est en fait une question qui se pose à chaque film. Et c'est là que ça devient intéressant que l'actualité, l'évolution de la société fasse que nous devenions tous, et tous les spectateurs, je pense tout à fait au-delà des critiques, plus sensibles à cette question-là. Et donc avec une position finalement plus critique du regard qu'elle ne l'était jusque-là. Je pense que c'est là qu'il est en train de se passer quelque chose qui est assez excitant intellectuellement.
Oui, parce qu'il y a de nouvelles questions qui arrivent, qu'il nous faut prendre en considération et prendre en charge. Là, il se trouve dans le cadre de notre travail, et c'est Lucille Comeau.
Je pense à un autre exemple, c'est des réalisateurs dont on parle souvent et qui peuvent provoquer aussi le même type de confusion, c'est-à-dire le rapport de force qu'on nous montre à l'écran est révélateur potentiellement d'un autre rapport de force qui est dans le réel et qui est gênant. Je pense à Dumont. Quand on voit les films de Bruno Dumont, on sent, il est évident, la méthode Dumont, celle qui fait qu'il travaille avec des acteurs non professionnels, que souvent ces acteurs ont des oreillettes et qu'il leur dicte littéralement ce qu'ils doivent dire. Donc là, les acteurs sont
comme
vraiment les pantins. Bien sûr. Après, c'est un contrat. Mais c'est un contrat qui se fait dans un cadre d'un rapport de force qui, là, pour le coup, est un rapport de classe nécessairement défavorable à l'acteur. Et moi, ce type de gêne, je la trouve assez comparable, même si, évidemment, la question de la violence sexuelle excède cet exemple-là. Je pense que d'un point de vue critique, ça peut poser le même type de questions.
Oui, mais dans le cas de Bruno Dumont, enfin, je vais laisser répondre nos camarades, mais ce qui compte, c'est, encore une fois, comme disait Antoine Guillot, c'est le résultat, c'est le film que l'on voit. Et moi, je trouve que Bruno Dumont fait de ces personnes des acteurs à part entière. Les prix d'interprétation à Cannes ont fait scandale en leur temps pour les acteurs de l'humanité, alors qu'ils étaient mille fois mérités. Le fait est qu'ils peut-être ne tourneront qu'un seul film dans leur vie. Ça n'en fait pas pour moi des acteurs non professionnels. Ils ont été professionnels le temps de ce tournage. Et Dumont, par sa méthode, sort quelque chose d'absolument jamais vu avant lui. Enfin, il y a une sorte de grâce chez Bruno Dumont, ça lui va bien, ce terme-là. La méthode, c'est pas... On pourrait faire un peu plus d'histoire, mais dire que Piala, c'était forcément conflictuel sur un plateau pour arriver à... quand le résultat est là, s'il n'y a pas, encore une fois, de violence exercée, de harcèlement exercé, ce qui n'est pas ce qu'on entend sur Bruno Dumont, ce qui compte, c'est le film, Antoine Guillot ?
Oui, enfin du point de vue légal, en tout cas, ce qui compte, c'est le consentement éclairé entre adultes sur un tournage. La création artistique, que ce soit sur un plateau de cinéma, que ce soit sur un plateau de théâtre,
dans un atelier de peintre,
dès qu'il y a de l'humanité qui est en jeu, c'est jamais facile, c'est souvent conflictuel. Et à l'inverse de ce que vous disiez, Florence, tout à l'heure, il y a beaucoup de films où ça se passe merveilleusement bien sur des tournages avec des personnes qui ont des relations très aimable et qui donne des films qui n'ont aucun intérêt. Donc on n'est pas là pour venir valider la méthode de travail de quelqu'un, là encore. Enfin, il me semble, ça a l'air d'être quelque chose d'inhumain, ce que je dis, mais à ce moment-là, on fait un autre métier. C'est-à-dire que là, on parle de critique ou de journalisme. Si on est journaliste, effectivement, on peut aller enquêter et dénoncer la façon qu'a un cinéaste d'avoir sous emprise des comédiens, de les épuiser pour obtenir d'eux des choses qu'ils n'auraient pas peut-être voulu donner s'ils étaient complètement réveillé, sauf que...
La carrière d'Hitchcock serait arrêtée bien vite.
Je parle d'Hitchcock, je parle de Keshish, je parle de Doyon, je parle de beaucoup de gens qui ont cette méthode-là, sauf qu'on obtient... L'objet, là encore, cinématographique, c'est ça qu'on va juger. Et si on va voir un film qui fait la promotion de la pédophilie sur un tournage qui s'est merveilleusement passé avec le respect des enfants, c'est plus grave que le film ait fait la promotion de la pédophilie que l'excellente ambiance qu'il y avait sur le tournage. Si je prends l'argument à revers.
Ouais. Florence Colombani.
Non, mais la question aussi que ça soulève, c'est celle de la position du metteur en scène, ce que disait Lucille à l'instant, c'est-à-dire que la notion de manipulation a été extrêmement exalté autour de la figure du metteur en scène. Et je pense qu'on est aussi dans un moment où on remet un peu en cause une vision très 19e de l'artiste, qui est une sorte de génie tourmenté, qui peut tout se permettre, qui a des débordements entre sa vie, son œuvre. Et l'idée de la manipulation, il y a une échelle de gradation, mais en tout cas, le concept de manipulation, il est même à l'origine de ce qu'on apprend, même dans un cours de théâtre de base, à un comédien, de ce qu'il doit attendre d'un metteur en scène. C'est quand même l'idée du marionnettiste. Donc, je pense que le fait qu'on questionne notre réaction à ça peut amener aussi des metteurs en scène à réfléchir et à avoir une posture différente. Et je pense pas qu'on est pour toujours figé dans ce type de rapport, forcément.
Lucille, comment ?
Mais ce que décrit Éric Nehoff, outre les outrances, disons, il y a quand même dans le fond quelque chose qu'il exprime qui est un regret d'un temps passé où tout était permis, en gros, et donc du coup les films étaient plus libres. Est-ce que, je me fais vraiment l'avocat du diable,
non,
mais est-ce
pas
que dans la logique...
Non, c'était plus macho, enfin, c'est quand même ça, c'est pas la liberté dont
non, mais
il
je,
parle.
Je me
c'est
mets de
le,
son
c'est un moment où... Non, mais de son point de vue, c'est un moment où les hommes commandent, boivent des whisky, et les filles sont des garces qui enlèvent leurs petites culottes. Je cite ce qui est dans le propos.
Du coup,
c'est pas libre.
Non, mais dans la logique de ce que dit Florence Colombani, si nous on remet en question la position du réalisateur, si de manière générale tous les acteurs entre guillemets du cinéma remettent en question cette position, est-ce que les films seront les mêmes ? C'est ça ma question.
Non, sûrement pas. Mais ils seront pas forcément moins bons. Enfin, je pense que tout le problème du livre d'Éric Nehoff, c'est d'être dans cette posture qui considère que tout ce qu'on a vécu dans sa jeunesse était tellement mieux. Et cette nostalgie-là, qui est celle à l'échelle d'une vie humaine qu'on peut comprendre, de tout mettre à l'imparfait et de croire que de mettre les choses à l'imparfait, ça les rend poétiques. Je pense pas que ce soit ça qui soit intéressant pour la réflexion sur le cinéma dans l'absolu.
Et puis ce qui est gênant dans le livre de Neuve, c'est que ce qui est au présent, c'est tout le cinéma français se goinfre de subventions, plus personne ne risque rien, les réalisatrices sont plus belles que les actrices, il faut nous rendre les garces d'antan. Il y a une fixette sur Isabelle Huppert, mais qui est très ancienne chez lui, où vraiment il dit des choses quand même tout à fait épouvantables. Donc l'imparfait c'était mieux, mais le présent, c'est un système qui vide de notre argent, quoi.
Oui, mais ça, tous les hommes vieillissants ont toujours prédit la fin du cinéma avec eux. Hein. C'est une histoire vieille, là encore.
J'espère que l'âge nous en préservera, mon cher Antoine.
Il faudra faire attention ou alors s'arrêter, simplement. Mais c'est un problème de libido, manifestement. Mais dans la période que chante Eric Neuhoff, c'est-à-dire la période des années 60-70, c'était aussi la période où des gens réfléchissaient à comment faire politiquement du cinéma politique. Et je pense que ces questions, c'est la transposition exacte de ça qui se pose actuellement. C'est comment faire humainement un cinéma humain ou comment faire paritairement un cinéma paritaire, enfin toutes ces questions-là vont probablement produire un autre cinéma et déjà en train de produire un autre cinéma, parce que tout ce cinéma réalisé par des femmes qui ne sont que 27% pour l'instant, on espère que ça va grandir, il se passe d'autres choses et d'autres climats manifestement, de ce qu'on apprend sur les tournages, ça n'en produit pas des films plus mauvais pour autant.
Et ce sera peut-être moins problématique que, pour reprendre votre argument, que Rebecca Zlotowski puisse adopter un male gaze, toute réalisatrice qu'elle soit, sur Zaya Deherb. Non mais oui. En quoi ce serait blâmable? Vous voyez, c'est ça qui est...
Non mais ça me semblait en contradiction avec le projet, moi. Simplement.
Je sais pas ce qu'est le projet, moi j'ai vu le film, hein. Mais bon, si vous avez des informations. Ce débat reviendra sur ce plateau et dans nos propos, forcément. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué sur les réseaux sociaux d'avoir mis en regard cette déclaration d'Anna Hedel, qui était vraiment très forte, très impressionnante, très maîtrisée, très pleine de gravité et en même temps de grande tenue. Et le prix pour Eric Neuhoff, c'est ce télescopage temporel quand même m'a semblé dire quelque chose du contexte actuel dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi ces deux sujets ont été accolés ici dans ce journal de la dispute que vous permettez dont on referme les pages. Enfin, vous mettez le bon mot,
tous vos moyens,
les bons verbes. Oui, mais dès que je m'adresse à Lucille Como, c'est comme ça. Mais à vous aussi, Antoine. À suivre dans la dispute. Vous permettez qu'on ferme les pages de ce journal. C'est à peu près ça la phrase que je voulais dire à l'instant. On va parler du film de Costa Gavras, de Jérémy Clapin et de Mikhaïl Kalatozov.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Adults in the Room de Costa Gavras, un titre qui est aussi celui du livre ici adapté, livre signé Yanis Varoufakis, éphémère ministre des Finances du premier gouvernement de Tsipras en 2015 en Grèce et qui passa 5 mois à tenter de négocier avec les différentes instances européennes pour sortir son pays de l'impasse de la dette.
Αυτή είναι η δύναμή μας.
Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε.
You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you and the hope you represent.
I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring.
I'm sure we're going to do good work.
La réussite de votre programme sera aussi notre réussite.
They won't let you do that.
Europe set up a rescue plan to save Greece.
The rescue plan was to save the German and French banks. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue.
Out of the question to renegotiate the MOU.
Le peuple grec a des obligations
This will lead to closure of your banks and to an exit from the Eurozone.
You are throwing us out of the Euro.
I didn't say that.
You implied that.
He's the one that should be kicked out. We need a Yannick set.
Πρέπει να τους δώσουμε κάτι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία.
Είναι παγίδα.
Όλοι θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να υποκύψεις.
Sign the MOU or exit the Euro.
You are wasting our time!
If you were me, would you sign this MOU?
Banks shut. No more money.
Well, as the Beatles say, money can't buy me love.
Alors, pour le jeu concours, on pourra faire deviner. C'est quoi le MOU? Mais bon, ça, ce sera pour quand ça sortira en DVD. Premier sentiment sur ce film de Costa Gavras, Florence Colombani?
Comment dire?
Bah, dites-le.
J'ai trouvé que c'était un film assez accablant. Évidemment, le sujet est accablant, le sujet de la crise grecque. Donc, accablement, voilà.
Antoine Guillot.
Moi, je dirais qu'il est mal foutu, partial, mais assez passionnant.
Et Lucille Como?
Moi, je pense que c'était pas facile et c'est très réussi.
Du coup, il faudra que je commence par vous, mais comme vous venez de mener le journal, vous avez déjà trop parlé. Non, vous reviendrez bien sûr. Alors, Antoine Guillot, tiens.
Alors voilà, mal foutu, parce qu'il y a des tas de choses qui marchent pas dedans, notamment... la fin, les solutions de figuration sur la fin, les limites après des personnages qui ressemblent plus ou moins à ceux qu'ils sont censés représenter. L'apparition de Macron, c'est restera un grand moment de
franchement, c'est pas le pire hein.
De cinéma dans ce film. Oui, mais il a juste un petit moment, donc en rapport
ça fait rire tout le monde dans la salle.
C'est drôle.
Mais après,
je
trouve ça assez culotté en fait et assez passionnant. D'abord, j'aime bien qu'il ait choisi de le faire. Connaissant Costa Gavras, il aurait pu le faire tout en anglais, par exemple. Il a le bonheur d'entendre les différentes langues de jouer ce jeu-là. Je le trouve assez passionnant. L'idée de rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas du tout, c'est-à-dire l'effet coulisse, je trouve ça très réussi. Et c'est surtout le rythme du film, moi. C'est-à-dire qu'il arrive à me passionner avec des choses les plus rébarbatives qui soient, à moins qu'on soit un lecteur assidu des pages économiques de nos journaux.
Vous l'êtes pas ?
Je l'ai été sur la recommandation de Godard qui disait qu'il fallait lire que les pages économiques des studios parce que des journaux parce que tout se jouait là. Mais non, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à prendre le spectateur. Il y a un rythme du récit qui est déjà formidablement mené par le protagoniste principal, y compris avec tous les côtés manichéens qu'il peut y avoir dedans et le côté même grotesque, c'est-à-dire que de présenter Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, comme une sorte de docteur Folamour complètement grotesque. Tous ces personnages comme des pantins gris. Finalement, c'est un choix de non-réalisme qui s'appuie pourtant sur les dialogues réellement enregistrés sous la table par Yannis Varoufakis, qui donne un effet effectivement désespérant et glaçant parce qu'on se dit tout ça est vrai et tout ça est probablement aussi théâtral et grotesque dans la vraie vie pour finalement évacuer qui ? Ben nous. Enfin, je suis pas grec, mais je pourrais l'être. Et nous le serons peut-être en France le jour où nous aurons une crise qui nous amènera à nous confronter à l'Eurogroupe.
Florence Colombani sur Adults in the Room.
Oui, ça produit un vrai effet d'accablement parce que ce que ça montre, c'est un personnage qui se heurte à un mur constamment dans une succession de réunions qui se passent toutes plus mal les unes que les autres. Et c'est quelque chose où on sent le désespoir monter et on est cloué au bout du compte par ça. Moi, j'ai quand même pas eu l'impression que le film allait assez loin dans la caricature, dans la farce, dans l'outrance. Je trouve que il y a un moment où le fait que ce soit quand même très lié à ce livre et à cette perspective, ça fait que je ne sens pas assez de liberté scénaristique et assez de créativité. J'ai l'impression de trop suivre et épouser un trajet réaliste. Là où ce qui m'intéresse, c'est les moments où le regard de Costa Gavras décolle de ce réalisme. Et donc, c'est dans cette tension que je trouve le film finalement déceptif.
Lucille Como, emballée.
Oui, oui, vraiment emballée. J'y allais vraiment en traînant des pieds. J'avais pas du tout envie de voir ça. C'est à la fois une histoire qui, sur le papier, est passionnante parce que en quelques mois, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Une élection, un référendum, des tas de réunions entre les deux. Donc, on a suivi quand même, même de loin, cette histoire-là. Et en même temps, ce sont des lieux et des personnes qu'on n'a pas envie de voir. Des lieux extrêmement moches, fermés, sans lumière du jour, qu'on voit beaucoup. Les salles de réunion de l'Eurogroupe, c'est vraiment très, très laid. Et puis des gens, des hommes blancs de 60 ans qui défilent les uns après les autres. On n'a pas forcément non plus envie de voir ça. Et ça fonctionne très bien parce que justement, c'est une farce. Moi, j'ai beaucoup ri et je pense que c'est bien. C'est-à-dire que le burlesque tel qu'il est convoqué, avec les effets, on en parlait hors antenne, de musique, il y a une sorte de rengaine de Sirtaki qui revient folklorique comme ça pour ponctuer les scènes. Il y a cette idée que je trouve très drôle d'avoir choisi des acteurs qui ressemblent le plus possible à Michel Sapin, Moscovici, Schäuble, pour, c'est évidemment un effet de distance, je pense que c'est vraiment de la fausse naïveté qui se joue là, et Macron, c'est une blague, vraiment, à ce moment-là. Il y a cette scène finale, bon, qu'on dévoilera pas, mais qui est un vrai moment de burlesque pur. Le burlesque, c'est le carnaval, et le carnaval, ça a une efficacité politique immense. C'est-à-dire, c'est le moment du renversement des valeurs. Et là, c'est un film qui met en œuvre ce programme-là. Il est extrêmement honnête dans son programme. Il s'appelle comme le livre de Varoufakis. Varoufakis est un héros. C'est même plus qu'un héros. C'est un metteur en scène. L'acteur qui a été choisi, qui s'appelle Christos Loulis, moi, je le trouve excellent, est un acteur d'un charisme incroyable qui fait du théâtre en permanence. Il y a cette scène où il va à la City. C'est une des premières scènes du film, convaincre les financiers de Londres que ça va pas être la catastrophe pour eux parce qu'il va leur négocier un petit truc en dessous de table, qui est filmé comme du théâtre, avec une lumière verte plombante. Tous ces Anglais, on dirait presque des types encrassés dans un film d'époque. Enfin, ils sont cireux. C'est tout ça est du théâtre. Et lui, il agit comme un acteur de théâtre sur une vaste scène de théâtre où tout est joué d'avance et où je pense que la simplicité des rapports de force est réelle. C'est ça qui est terrible et accablant. C'est que je pense que cette simplicité, c'est ça, c'est terrible. Il y a un passage quand même absolument incroyable, je finis juste là-dessus, où il dit « Non mais moi j'ai été élu, je vous donne, voilà, j'ai la mission de représenter le peuple grec, donc je ne signerai pas ce fameux MOU qui va nous mettre encore plus dans la merde concrètement. » Et en face, on lui dit « Mais vous vous rendez pas compte, monsieur Varoufakis, on va, à chaque fois qu'il y a des élections, on va quand même pas changer de programme, on va pas tout reprendre du début. » Et là, le niveau d'inadéquation totale entre les idéaux démocratiques de l'Europe et le pragmatique, enfin, ce qui se passe de manière pratique est ahurissant. Et je pense que c'est aussi ahurissant que ça et que le film le montre vraiment brillamment.
Moi, je suis pas du tout convaincu que ce soit une farce, ou alors elle est beaucoup trop légère. Il fallait la forcer, cette farce, parce que moi, je vois simplement, et c'est ce qui m'a le plus gêné, un film qui épouse donc ce point de vue qui n'est pas seulement celui de Costa Gavras, qui est celui auquel il adhère, qui est celui de Yanis Varoufakis, qui est quand même super Yanis contre le reste du monde. Moi et les autres, même Tsipras est montré la plupart du temps comme un gamin un peu apeuré, qui sait pas trop bien quoi faire de ce qui lui arrive. Il est élu, oh mince alors. Et il lui dit au moins 4 ou 5 fois dans le film, Tsipras Varoufakis, je ne peux rien faire sans toi. Cette insistance est quand même d'une grande lourdeur, c'est quand même très très gênant. Donc moi c'est quand même quelque chose qui m'a profondément gêné, c'est un manque de recul absolu. Donc c'est pas une farce, la farce c'est de croire, de prendre pour argent comptant, c'est le cas de le dire, le livre de Varoufakis. Ensuite, il y a des choses qui sont réellement, ce que vous venez de dire sur la, on va pas changer de programme quand il y a des élections. Là, oui, c'est tout sauf une farce. C'est absolument glaçant de la vérité, la réalité cynique, parce que ça, ce sont des choses enregistrées. Mais vous parlez de cette scène avec les représentants de l'économie anglaise. Alors, ça fait partie des autres problèmes. Il y a quand même beaucoup la dette grecque pour les nuls, ce qui peut se comprendre, parce qu'il faut bien que les spectateurs, comme vous et moi, puissions comprendre de quoi il s'agit, mais sauf que cette dette grecque pour les nuls, chaque fois dans le film, c'est fait face à des gens qui savent absolument très bien de quoi il s'agit, des économistes de très très haut niveau, ou ces patrons anglais à qui il n'a pas besoin d'expliquer, sauf que voilà, le seul moyen scénaristique trouvé, c'est de le faire pendant cette séquence-là, où il arrive sous les huées et repart 4 minutes 30 après sous les hurrahs.
Mais hein, vous pensez vraiment possible, que les patrons de la City, ils avaient en tête tous les mécanismes de la dette grecque et la simplicité du scandale que c'était à ce moment-là de saigner la Grèce à ce moment-là? On ne va pas rentrer dans ce débat économique-là, mais honnêtement, je ne suis pas sûre que l'expertise elle soit si élevée que ça de l'autre côté, et je pense que la grossièreté des schémas, c'est la grossièreté de ce qui s'est passé d'un point de vue politique.
Non, mais moi j'aurais aimé, alors pour le coup, un huis clos dans les salles de l'Eurogroupe. C'est là que le film m'intéresse, c'est là qu'il est pleinement vivant, incarné, même si les acteurs sont censés ressembler aux actrices. Il y a quand même Christine Lagarde qui est là, qui a un peu le meilleur rôle. Mais bon, moi je trouve que ce film, c'est pas très bien où il se situe. Antoine Guillot ?
Non, mais c'est là que je dis qu'il est effectivement...
bancal.
Bancal est mal foutu, mais il y a quand même ce bloc quoi au milieu.
Il aurait fallu que ça, non ?
Il y a ce côté théâtral. Oui, mais il a une ambition grand public, comme vous dites, la dette grecque pour les nuls, mais c'est la dette grecque pour le grand public. Et qui est cette ambition-là, moi je trouve ça aussi...
Je m'inclus dans les nuls, là.
Je trouve ça aussi pas mal, c'est-à-dire qu'il y a une volonté... de faire passer des notions compliquées qui nous agissent quand même en permanence.
Donc,
ne serait-ce que pour donner envie aux gens de s'y plonger un peu plus et de se dire, ah bah tiens, maintenant je comprends ce que c'est que l'Eurogroupe. Après, évidemment, on regrette que le film soit pas mieux, on regrette que la réflexion politique n'aille pas jusqu'à se dire, nous faire comprendre que ces membres de l'Eurogroupe sont avant tout des ministres, donc sont des gens qui représentent des gouvernements élus dans leur pays. Donc la question de la démocratie pourrait se poser aussi de manière plus compliquée. C'est pas le peuple grec qui décide pour l'ensemble de l'Europe. Malheureusement, sans doute, mais donc tout ça, ce sont des articulations qui sont un peu plus compliquées. Mais je trouve que le film a l'immense mérite d'exister. C'est-à-dire qu'il a l'immense mérite d'avoir pris ça à bras-le-corps, de l'avoir plutôt bien mené, parce que malgré tout, on ne s'ennuie pas du tout pendant deux minutes. C'est mené comme ça, comme un feuilleton. Et après, toute la critique sera possible. On est plus armé après ce film pour critiquer ce film, mais aussi pour critiquer des choses encore plus importantes que ce film.
Lucille, comment ?
Oui, il y a quelque chose qui est quand même très réussi, de la littéralisation à l'image de ce que c'est qu'une crise financière. Il y a une scène qui est une scène réelle, enfin, qui aurait pu presque être tirée des archives, au moment... de l'annonce du référendum, c'est la panique parce qu'on a peur que les banques ferment et donc les gens se précipitent pour retirer leurs 60 euros hebdomadaires au guichet des banques dans Athènes. Ça, c'est des scènes. C'est presque une scène de cinéma, parce qu'on a vu toutes ces scènes dans les films qui représentent la crise de 29, par exemple, dans le cinéma américain. Je trouve ça assez fort de représenter ça aujourd'hui dans le cinéma, et je trouve vraiment de manière assez convaincante, avec en effet du suspense, des appels à des affects assez simples finalement chez le spectateur, et de le faire aujourd'hui. La contemporanéité de ces images-là, je trouve que cinématographiquement extrêmement fort.
Florence Colombani, pour conclure cette séquence.
Oui, moi je rejoindrai Arnaud sur l'héroïsation du personnage de Varoufakis, que je trouve une faiblesse finalement. Je trouve pas que ça nous entraîne tant que ça. Je trouve qu'au contraire, ça fait un peu écran, parce qu'il y a un moment où on n'a plus envie de s'extasier sur son brio, et on aurait envie que les rapports de force qui se tissent soient plus complexes. Et pour moi, il y a un vrai problème scénaristique. Je pense que c'est dans la dramatisation de ce qui se passe que Costa Gavras ne s'est pas assez détaché de ce livre de départ.
Bon, mais bien que celui de ce film existe, pour en savoir plus, effectivement, sur la dette grecque. Donc là, on a parlé du film, mais aussi de son contenu. Cinématographiquement, je reste quand même sur mes réserves. Sur le fond, la dette grecque pour les nuls, donc pour moi, avec Adults in the Room de Costa Gavras. Et puis, rappelons que Costa Gavras était l'invité de la grande table. C'était... la semaine dernière, le 31 octobre, et que donc on peut l'écouter, le réécouter en podcast sur le site de France Culture. Белки на заводе, занят во.
Боря! Что с тобой, Боря? Ты ранен? Ты ранен, Боря?
De la Grèce à la Russie. Alors la Russie, pas tout à fait d'aujourd'hui, hein. C'est une Palme d'Or en 1958. Ça fait partie des Palmes d'Or dont on se souvient, Antoine Guillot.
On s'en souvient pour deux raisons. Parce que c'est la Palme d'Or qui a le mieux marché en salle. En France, 5 400 000 entrées de toute l'histoire des Palmes d'Or, hein, et c'est la seule Palme d'Or de l'Union soviétique.
Et le film s'intitule
Quand passent les cigognes de l'immense cinéaste soviétique, il était pas russe, il était géorgien, donc soviétique à l'époque, Mikhail Kalatazov. Vous avez peut-être vu Soy Cuba, qui est ressorti récemment, un film qui était passé sous le boisseau à l'époque. Et si vous avez été impressionné par les mouvements de caméra stupéfiants qu'il y avait dans ce film, vous le saurez tout autant dans Quand passent les cigognes, parce que c'est le même chef opérateur, c'est Sergueï Ouroussevski, qui utilise... Mais alors là, il y a des choses que j'ai toujours pas compris, donc encore comment il les fait, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, ça impressionne beaucoup maintenant. Donc pour ce film qui raconte, c'est la grande guerre patriotique, sujet obligé du cinéma soviétique, sauf que comme on est à la période du dégel, on est en 1957, donc moment de déstalinisation avant qu'on retrouve la glaciation ensuite, mais on peut en parler autrement. Alors on peut en parler par exemple en montrant les gens de l'arrière, c'est-à-dire pas les soldats en train de se battre et d'écraser avec vigueur et joie l'ennemi nazi, mais ceux qui restent à l'arrière. Et comment est-ce qu'on fait quand l'amant, le futur mari est parti à la guerre? Ben c'est tout le problème de l'héroïne de ce film, c'est que dans un moment de bombardement incroyablement filmé, là encore avec des éclairs, ça explose de partout, elle va être violée par le cousin et elle va l'épouser. Et ça devient la mauvaise femme d'un mélodrame absolument déchirant parce que elle n'a pas attendu les cigognes et surtout le retour de Boris. Et là où c'est passionnant aussi, c'est que dans un cinéma qui montrait les masses, là on va montrer le destin d'un individu confronté à ces questions des masses, et ça il va le montrer de manière cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, parce que même si c'est un film intimiste, un mélodrame, on est dans le cinéma soviétique de la Mosfilm, donc il y a des milliers de figurants quand les soldats partent à la guerre ou quand ils reviennent, et vous avez des travelling au milieu de ces figurants, de cette femme qui va essayer c'est du plan séquence où on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'elle voit, c'est pas le plan séquence immersif tel qu'on le fait maintenant, c'est le plan séquence qui vous montre ce que c'est qu'être un individu dans la masse, où même la masse il arrive à l'individualiser par des petites touches d'une femme qui va embrasser son bébé, d'un autre qui va perdre son panier, enfin c'est en mise en scène c'est extraordinaire. Donc si vous n'avez jamais vu ce « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatozov, vous avez deux façons de le voir, en salle parce qu'il marche très très bien, et en DVD et Blu-ray dans une copie restaurée, mais vous n'avez jamais vu ce film comme ça, c'est chez Potemkin. Bravo. Évidemment.
Évidemment. Bon, Potemkin, « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatozov, Palme d'Or 1958.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier film à notre sommaire, c'est un film d'animation. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, un film que moi je n'ai pas encore vu, mais qui a reçu de nombreux et beaux prix. Le Grand Prix, le prix du public à Annecy, le Cannes du festival du film d'animation, mais aussi le Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes, justement.
Que tu crois au destin? Non, sérieux.
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. C'est le seul moyen de conjurer le sort. Pour de bon.
Un truc comme quoi?
Un truc, je sais pas, n'importe quoi. Là, tu marches tranquille. Tu fais semblant d'aller là. Tu fais une petite feinte, comme un dribble. Un écart. Et hop, tu sautes sur la grue. Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Après? Tu t'arranges pour pas qu'il te rattrape. Tu fonces tête baissée et tu croises les doigts. Quoi?
Pardon.
Quoi?
T'as pas faim?
J'ai commandé une pizza.
Premier regard sur « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin, Antoine Guillot.
Moi j'applaudis, mais d'une seule main.
On expliquera pourquoi dans un instant. Lucille Como.
Moi je trouve que c'est un film qui travaille peut-être un peu trop de forme et de genre, mais que c'est dans cette fragilité-là qu'il existe.
Florence Colombani.
Moi j'ai trouvé qu'il y avait un très beau moyen-métrage dans ce film.
Ah! Bon, c'est un peu mitigé tout ça. Florence, allez, développez.
En fait, il y a deux fils, si je puis dire. Dans ce film, il y a l'histoire d'une main qui a été sectionnée d'un corps. et qui s'échappe et essaie de retrouver son corps. Et il y a l'histoire du corps à laquelle la main appartenait, qui est ce jeune homme dont on découvre par fragments toute la vie et tout le trajet jusqu'au moment de la séparation d'avec sa main. J'ai trouvé toute la partie qui concerne la main très belle, très très imaginative et surréaliste sans être coquette dans son surréalisme, ce qui est pas évident parce que bon, l'idée même d'une main qui se promène toute seule dans la ville est en soi un peu précieuse, mais la façon dont Jérémy Clapin utilise ça est très belle parce que entre une sorte de prosaïsme et de goût du détail charnel, montrant les insectes, montrant les rats dans le métro, quelque chose d'être très sensoriel et en même temps ne reculant pas devant des moments franchement poétiques comme ce moment où la main se promène sur un bébé auquel elle rend sa tétine. En revanche, la partie qui concerne le personnage et qui est donc plus conventionnelle, puisque c'est une histoire d'un garçon qui orphelin, qui a ensuite un trajet plus que difficile dans la vie, m'a beaucoup moins touchée, captée. Enfin, c'est bien fait, mais sans pour moi résonner plus que ça. Et donc, comme c'est un va-et-vient, le problème quand on a un décalage comme ça en tant que spectateur entre les deux parties, c'est qu'on regrette dès qu'on quitte ce qui vous saisit. Et donc, il y a une sorte d'inconfort de ce va-et-vient.
Peut-être avant de poursuivre ce tour de critique, concrètement, esthétiquement, plastiquement, je fais appel à l'expert S-Crayon, Antoine Guillot.
Alors on est dans une esthétique assez particulière parce qu'elle utilise plusieurs motifs en fait, et notamment dans les décors on a des effets un peu photographiques et on est dans une image qui est très réaliste, ce qui est plutôt une originalité pour ce film dans un cinéma qui généralement utilise quelque chose de beaucoup plus cartoon. C'est un dessin qui ressemble beaucoup à ce qui se fait dans la bande dessinée contemporaine. On peut penser à un Clément Oubrerie par exemple, celui qui fait Pablo en ce moment, je sais pas si vous dites, ou Agadio Pougon de manière plus cartoonesque. C'est-à-dire qu'on a un trait un peu gracile, un peu fragile, mais très très réaliste, et qui en fait, alors là pour le coup je me suis interrogé, puisqu'on parlait de comment ça s'est fabriqué, alors je ne sais pas s'il y a eu des abus sur le tournage, mais la technique est assez intéressante parce qu'en fait les personnages sont modélisés en 3D, l'animation se fait en 3D et le dessin se fait sur le 3D comme une texture, sauf que à l'écran on le voit pas du tout, puisque ce qu'on voit c'est la trace du crayon, c'est pas ancré avec sur le principe vous avez le gros trait sur le cellulo qu'on va colorer derrière. On a ce sentiment quand même très très fragile du crayon, et ça c'est assez beau. Voilà, plastiquement en parlant. Et puis, il y a un autre élément.
Ceux qui ont compris, ont compris.
J'espère, je me suis si mal expliqué.
Les autres, non, mais parce que c'était un peu technique tout ça.
Non, mais voilà, voyez à l'écran, c'est un trait au crayon et non pas ancré, donc plutôt fragile et plutôt vibrant, assez vivant. Et après, dans l'animation même, on a quelque chose qui vient très directement de, sans doute, l'amour de Jérémy Clapin pour l'animation japonaise, c'est-à-dire une manière de retranscrire des petits riens dans le mouvement d'une bouche, dans une attitude, qui, là, pour le coup, donne quelque chose de très vivant, puisqu'on n'est pas dans des attitudes stéréotypées. Mmh. On a le sentiment de quelque chose de vivant. Ça, c'est apporté au crédit de ce film.
Lucille Como sur « J'ai perdu mon corps ».
Oui, je suis pas très loin de penser à peu près la même chose que Florence Colombani, c'est-à-dire que quand le film commence, toute une première partie peut nous laisser entendre qu'on est dans un genre vraiment fantastique, voire même avec des codes du film d'horreur, puisque ça commence dans une morgue avec différents organes et cette main qui s'échappe, il y a un peu de gore par-ci, par-là. Et puis très vite, on est transporté complètement dans un autre genre, qui est le genre de la comédie romantique réaliste parisienne. Moi, j'ai beaucoup pensé à Clapiche, au film de Clapiche, à Chacun cherche son chat. Il y a beaucoup de décors de cours d'immeubles où on se parle entre voisins, où les personnages se retrouvent par hasard dans les rues, se suivent les uns les autres. Et il y a une bonhomie, enfin une bienveillance envers les personnages qui me semble être à peu près celle de Clapiche.
C'est moi, le scénariste d'Amélie Poulain qui a écrit le livre dont ce film est adapté.
D'accord. Je vois bien la filiation. Et moi, je préférais plutôt cette partie réaliste justement à la partie genre, enfin fantastique, parce que je me suis beaucoup accrochée, et je m'en rends compte encore en entendant la bande-annonce, aux voix. Il y a un travail sur le son qui est vraiment très intéressant, et sur les voix en particulier. Le petit garçon dont il est question, donc, qui est devenu grand dans le présent, il enregistre en permanence, quand il est petit, ses parents sur des cassettes, et puis il rencontre cette fameuse jeune fille avec dont il va tomber amoureux par un interphone, donc il se voit pas tout de suite, il commence par se parler par un interphone interposé, et ses voix, moi qui suis pas une grande fan de films d'animation pour adultes, je trouve que c'est souvent le problème, et là je les trouve très naturelles, et la voix de notamment du personnage principal, c'est Hakim Faris, je connais pas ce comédien, je la trouve vraiment très fine, très juste et très belle, et je pense que vraiment je suis restée à l'intérieur du film en grande partie à cause du son et des voix.
Antoine Guillot.
Ah bah alors là, pour moi, c'est justement là où ça pêche.
À vous trois, finalement, je pense qu'il y a un spectateur qui adore ce film et l'autre qui l'aime pas du tout.
Et je trouve qu'on l'entend très bien dans la bande-annonce. Il y a un problème de justesse des voix. C'est-à-dire, j'entends vraiment les comédiens qui disent leur texte posé sur leur chevalet pendant qu'ils enregistrent les voix. Et c'est souvent, d'ailleurs, là-dessus qu'un film d'animation va réussir à décoller ou pas. Je me souviens du film d'après Solotareff, U.
Où
il y avait eu un travail.
Génial.
Extraordinaire de direction d'acteurs. Là, je ne sais pas s'ils n'ont pas eu assez de temps ou quoi, mais je trouve que ça pêche beaucoup sur la partie qui se voudrait précisément la plus réaliste, et que je trouve un peu comme Florence, la plus convenue d'une certaine manière, parce que ces deux films se collent sans vraiment, même si on voit bien dans le montage qu'il y a des moments où ce qui arrive à la main illustre d'une certaine façon ce que ressent le personnage dans la partie comédie romantique, mais je crois que c'est aussi la limite, le problème du film d'animation, parce que coûte très cher à fabriquer et qu'on n'ose pas couper ce qu'on a réalisé. Et contrairement au cinéma, en prise d'image réelle, on n'hésite pas à sacrifier une séquence, un plan, parce que ça ne fonctionne pas. Mais là, un plan qui a été fait, le montage se pense en amont. Et parfois, il faudrait oser faire un moyen-métrage, comme disait Florence Romani, pour le densifier, parce qu'il y a des moments où, même dans les scènes de la main, qui sont des scènes d'action, etc., on voit un peu quand même la succession des épisodes, et tout ça gagnerait à être plus rythmé, à être densifié.
Florence Colombani.
Oui, j'aime beaucoup sur le principe ce rapport au son du personnage. Donc le petit garçon enregistre ses parents, se promène partout avec un micro. Plus tard, quand il aura perdu ses parents, il les réécoutera et il aura cette connexion avec son passé. En effet, la scène de rencontre par interphone, tout ça en théorie, j'aime beaucoup. Je trouve que en tout cas pour moi, l'émotion n'est pas advenue. Et je sais pas si c'est peut-être en effet lié au comédien mais c'est presque comme un concept, je trouve, mais qui ne s'incarne pas, alors que dans la partie de la main, pour moi, il y a quelque chose de charnel là, qui est beaucoup plus prenant et touchant, et le lien avec l'animation japonaise qui est le plus marqué, il me semble, dans le personnage de la jeune fille dont il est amoureux, qui elle pourrait sortir d'un film japonais, et là on est plus dans des stéréotypes et des choses convenues, il me semble, de même avec l'utilisation de la musique. Enfin, il y a quelque chose d'une vraie originalité dans ce film, mais qui reste un peu dans la pierre. C'est comme une sculpture qui n'a pas été libérée encore.
Antoine Guillaume.
Mais par contre, là où il y a un grand talent d'animation, c'est précisément l'animation de cette main. C'est-à-dire, c'est pas juste une grosse migale qui parcourt Paris. Ils arrivent par l'animation et par le jeu. Alors là, je ne sais pas de quelle main ils se sont inspirés. Probablement de sa propre main, pour le coup, de dessinateur. Parce qu'on pense évidemment à toutes les métaphores qu'il peut y avoir sur l'autonomie de la main, dans le dessin, sur l'objet étrange que ça peut être. C'est sa capacité à exprimer des émotions. Cette main est extraordinairement vivante. On s'inquiète pour elle, elle nous émeut, elle nous effraye par moments, et ça, c'est très, très, très réussi.
En gros, ce sont les humains qui vous ont aimé.
Non, mais je trouve qu'il y a un travail sur la voix qui, en effet, c'est surprenant, c'est fragile, en vous en entendant parler. J'ai essayé de mettre dans votre tête, d'adopter votre point de vue.
Je vous le conseille.
Non, mais il y a quelque chose d'assez fragile dans la voix.
À vos risques, vous êtes péril.
Presque maladroit, mais que vraiment, je trouve justement très humain. C'est comme si à l'humanité de cette main correspondait de l'autre côté une humanité dans les voix, y compris dans leur maladresse et leur côté un peu ténu. Moi, j'aime pas dans les films d'animation. Je trouve toujours que les gens surarticulent comme pour compenser une dimension non humaine des acteurs. Là, je trouve que justement, il y a quelque chose d'assez juste.
Ouais, c'est Victoire Dubois qui est Gabriel, et Patrick d'Assunção, Georges.
Il est très bien, lui.
Bah, c'est un très bon acteur, aussi. Bon, ben voilà, j'ai perdu mon corps. Sachez que Jérémy Clapin et Guillaume Laurent, qui est donc le co-scénariste du film, ont également été invités sur notre antenne, c'est dans la grande table lundi dernier. Donc là encore, vous pouvez prolonger notre écoute par celle de l'émission d'Olivia Gesbert en vous rendant sur le site de France Culture. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et donner sa réponse. David.
Quel écrivain est invité à raconter son histoire du cinéma durant le festival Histoire du cinéma ? Et la réponse est Alain Damasio.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Les Mille et Une Nuits, mis en scène par Guillaume Vincent. Nous en parlerons bientôt dans la dispute. Des places à gagner pour mardi prochain, 12 novembre, à 20h à l'Odéon. Quelle est la question ?
À qui Scheherazade raconte-t-elle cette longue histoire ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Clément Daté. Réalisation, Émilie Vallard. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle. Je serai en compagnie d'Anna Segalevich, de Lucille Como, de René Solis. Nous parlerons de la dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène Jacques Kosinski à l'Athénée. Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum. Marie-Pierre Bréban et François Chéniaud, c'est en ce moment à la MC 93. Et un coup de cœur pour Un dieu, un animal, d'après le livre de Jérôme Ferrari, mise en scène et adaptée par Julien Fizera. Et enfin, un journal de la dispute consacré cette fois à l'édition théâtrale.